Bonjour Monsieur Nardou.
Bonjour Sylvie.
Alors vous allez nous préparer et nous proposer une nouvelle émission. Elle s'appelle Un brin d'histoire. Elle va être diffusée le mardi et le samedi. Et on va faire pour cette première émission une petite présentation de vous. En quelques mots, alors vous êtes de Montcuq. Là-bas, vous êtes très connu parce que votre maman, pendant de très nombreuses années, a été herboriste et tenait un magasin là-bas.
Herboriste diplômée d'État, opticienne de l'École supérieure d'optique de Paris, mathématicienne et chimiste de formation, et qui a exercé jusqu'en 1993 sa profession d'herboriste, dans laquelle je l'ai assisté pendant une vingtaine d'années, ce qui m'a permis, disons, par beaucoup de lectures et beaucoup d'expériences, d'apprendre bien des choses en matière de plantes médicinales. Et comme je suis très jardinier, que je ne me sens bien que dans la nature la plus sauvage qui soit, il est évident que l'herboristerie était dans mes cordes, disons.
Alors vous n'êtes pas que ça, bien sûr, vous êtes conférencier, vous êtes historien, passionné. On dit même que vous êtes la mémoire vivante du passé du village de Montcuq, où vous êtes né.
Oui, alors voilà, je suis historien par goût et par passion depuis l'enfance, depuis l'école primaire. J'ai toujours été passionné d'histoire. Ce qui m'a encore plus intéressé peut-être, c'est la découverte des mondes d'ailleurs, je dirais des autres sociétés, des autres civilisations, à travers les langues vivantes, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Donc, ouvert sur le monde extérieur et sur les mondes autres, aussi bien l'Antiquité, le Moyen-Âge, que les sociétés contemporaines. Alors, ma grande passion, ça a été l'histoire du droit et des institutions, que j'ai découverte en faisant des études de droit. À l'âge où tout le monde fait des études supérieures après le bac. J'ai été un passionné d'histoire des institutions et d'histoire du droit, qui est une porte d'accès remarquable à la connaissance historique. Et 15 ou 20 ans après, j'ai repris des études. J'avais déjà une maîtrise de droit public et d'histoire du droit. Et j'ai refait des études universitaires en histoire-géographie, au Mirail, où j'ai pu faire du latin et du grec en plus d'histoire-géo, et où j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs remarquables, notamment Jean Durlia, qui a été mon directeur de maîtrise d'histoire, et d'autres que lui que je risquerais d'oublier, mais bon, Rémi Pêche, Michel Brunet. Ma passion, ça a été ce qui était depuis l'âge de 12 ans et plus, c'est l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, que j'avais découvert à 12 ans dans mon missel en lisant le résumé de la vie de Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont-Ferrand, canonisé, évoqué, populi par la suite, et qui a été mon sujet de maîtrise d'histoire. Jean Durlia m'appelle un matin, c'était mon année de maîtrise, je crois, il me dit « Monsieur Nardou, je vais vous parler, on va aller dans mon bureau. » Il me dit « Écoutez, vous n'êtes pas fait pour les concours administratifs, le CAPES et la GREC, ce n'est pas fait votre truc, vous êtes fait pour la recherche, je vous veux en maîtrise, je vous veux en thèse, est-ce que vous avez un sujet ?» Je lui dis « Écoutez, Monsieur Durlia, hier je lisais à la bibliothèque du département de lettres classiques les œuvres de Sidoine Apollinaire. » Oui, mais vous avez votre sujet de maîtrise. Et j'ai fait mon sujet de maîtrise sur l'épiscopat en Gaule romaine, d'après les œuvres de Sidoine Apollinaire, évidemment en latin, avec le grec à l'appui, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, il me manque le russe. Mais un de mes amis de fac, Arnaud Busquet, qui maintenant est professeur à Mont-de-Marsan, lisait et parlait couramment le russe, il aurait pu m'aider. Mais enfin bon, je me suis contenté de ce que les ressources des bibliothèques me proposaient.
Vous abordez l'histoire, la géographie, la flore, les plantes médicinales.
Je suis de passion, je suis attiré par la géographie physique, c'est-à-dire l'étude des reliefs et du climat. C'est ma grande passion que j'ai découverte vraiment au Mirail en faisant mes études, mais que j'avais déjà auparavant. C'est vrai que c'est une matière extrêmement scientifique qui demande beaucoup de très bonnes connaissances que je n'avais pas, parce que je ne suis pas du tout matheux, en chimie et en physique. Je préfère la géographie physique à la géographie humaine. Mais enfin bon, après, ça rentrait dans mon amour pour les paysages naturels.
Alors, il y a même la cuisine locale, je crois, qui
oui,
n'a pas de
secret. Oui, parce que ma mère était une excellente cuisinière, et aussi bien pâtissière que cuisinière, qui était une référence locale en matière de cuisine. Elle n'était pas la seule. Geneviève Bourrière, par exemple, la belle-fille de l'ancien maire Marcel Bourrière, est une référence pour ce qui est du pastis et d'autres recettes. Donc je suis né dans un milieu, si vous voulez, où les femmes sont des cuisinières. Et où ma mère, qui tenait toutes ses recettes de sa propre grand-mère maternelle, faisait une cuisine, on venait lui demander des recettes. Et j'ai encore tous ces cahiers, bouquins, registres de recettes de cuisine. Puis elle était herboriste, donc ses recettes de tisane, mélange de plantes, liqueurs, conserves, confitures. Et tous les ans pour Noël, c'est le rituel, je fais des liqueurs de Noël.
Pas mal. Bon alors, vous ne faites pas que ça, vous avez aussi d'autres passions, hein, vous en avez pas mal quand même.
Oui.
Et à la mythologie, les contes, les secrets, les légendes, voilà, et les traditions.
Je vais vous dire comment j'ai découvert la mythologie historique par deux canaux. D'abord, Georges Dumézil, que m'avait fait découvrir Patrick Rébaud, professeur d'histoire des institutions, d'une part, et d'autre part, Georges Housset, mon libraire de la rue du Thor, qui m'avait, lui, orienté vers toute la mythologie populaire des régions occitanes et du sud-ouest. J'ai trouvé chez lui, tout à fait par hasard, il avait un recueil d'articles publié par le fondateur de la Société de mythologie française, le professeur Henri Fromage, qui était professeur d'histoire. Et Henri Fromage avait recueilli beaucoup de légendes, de mythes, de récits divers lors de campagnes d'enquête dans les différentes régions de France. Il a construit une connaissance scientifique de notre mythologie historique de la vieille France. À travers les œuvres d'Henri Fromage, j'ai découvert la mythologie historique de la France. J'ai adhéré à la Société de mythologie française et je me continue toujours d'envoyer des textes qui sont publiés ou pas à l'occasion dans le bulletin de la Société de mythologie. Et je suis un passionné donc, de mythologie comparée et de linguistique comparée. Donc, si vous voulez, pour moi, le mythe, bon, vous le savez, en grec, le mythe, c'est le récit. Mythos, ça veut dire le récit, ce que l'on raconte. Alors que la légende, en latin, c'est un pluriel. Le singulier, c'est legendum, le pluriel, c'est legenda, c'est un neutre. C'est-à-dire, ce sont les choses qui sont à lire, alors que le mythos, c'est ce qui se raconte. Au fond, c'est un peu comme la fable. En latin, fabula, c'est le verbe fari, s'exprimer, parler. Le conte, bon, ça veut tout dire, c'est ce que l'on raconte. C'est toujours la parole qui intervient, encore plus peut-être que dans le cas de la légende, l'écrit. La différence, elle est simple. Nous avons au XIIIe siècle en Europe un ouvrage remarquable de référence qui a été publié à la fin du XIIIe siècle par un ancien inquisiteur général en Lombardie, révérend père dominicain, qui a fini sa vie archevêque de Gênes. C'est Jacques de Voragine, en italien Giacomo da Verrazzano, et Jacques de Voragine a publié sa fameuse Légende dorée, qui est un recueil de vies de saints et de martyrs, mais qui rassemble beaucoup plus que des vies authentiques au point de vue historique, c'est plutôt l'ensemble de tous les mythes, légendes, que ces vies de saints de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge ont en quelque sorte attiré à elles, c'est-à-dire que chaque saint... Certes, bon, il y a toujours un aspect historique dans la légende dorée de Jacques de Voragine, mais c'est beaucoup plus le recueil de toutes les légendes et mythes qui se sont agrumelés, comme on pourrait dire, accrochés à tel ou tel saint particulier qu'autre chose. Et là, ça se lit, la légende dorée, on le lit et on le relit. Et c'est en fait un recueil de mythes complètement oubliés. Alors que le mythe, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se raconte, et donc ça peut varier d'une région à l'autre. La mythologie grecque que nous connaissons, en fait, elle est le produit de la synthèse, de recension de textes divers, variés, de récits divers variés, recueillis par des auteurs de l'époque romaine. Lorsque la civilisation grecque avait atteint et même dépassé son point de maturité, elle était non pas sur son déclin, mais sur sa post-modernité. Et à ce moment-là, voyant que tous ces récits allaient disparaître, certains auteurs, comme Plutarque, comme Pausanias, ont recueilli tous ces textes, ils en ont fait une synthèse. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils ont quasiment fabriqué la mythologie grecque. Tout comme ils ont fabriqué la religion grecque. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la religion grecque? C'est la religion de telle cité qui est différente de celle de la cité voisine. Ce sera le culte d'Apollon à Corinthe, qui n'est pas le même que le culte d'Apollon à Claros. Et ce sera le culte de Dionysos en Thrace, c'est pas le même que le culte de Dionysos à Athènes. À peu près au même moment, à Rome, c'est Tite Live qui recueille les légendes des origines de Rome. Parce qu'on est sur le moment où tout le monde est en train d'oublier ça. Au XVIIe siècle en France, ce sera Claude Perrault avec ses contes. Au XIXe siècle en Allemagne, ce sera les frères Grimm. Et dans nos régions, alors là c'est extraordinaire, au XIXe, XXe siècle, des auteurs remarquables, qui sont les auteurs pères fondateurs de la Renaissance occitane moderne, ce sera par exemple Jean-François Bladier, avec ses contes de Gascogne, Conte de Gascogne, de Juan Francesc de Bladier, qui était juge de paix à Lectoure, Et sa profession lui laissait beaucoup de temps libre. Il passait son temps dans les campagnes de la région de Lectoure, qui doit être la Lomagne, je pense, ou l'Armagnac, ou le Fezensac, je ne me souviens plus très bien, à rencontrer des paysans et à leur enquêter. Il leur demandait, il fallait susciter la confiance. C'est très difficile d'obtenir des textes, d'obtenir des récits. Il faut surtout pas, il faut éviter les questions de but en blanc, parce que vous vous heurtez à une espèce de mur. Le mur de l'inconnaissance. Les gens ont l'impression de ne rien savoir, alors qu'ils savent tout, mais ça ne leur revient pas à l'esprit, et puis ils se demandent... Pour eux, ça n'a pas... c'est des récits qui sont tellement dans leur mémoire, dans leur culture, et qui n'en voient pas... Je dirais que pour eux, ça ne peut pas susciter l'intérêt d'une enquête. Et Jean-François Bladier, donc, a enquêté auprès de tous les paysans de la région, dont il a conservé le nom, il nous les donne à la fin de ses récits, et dans ses contes de Gascogne, qu'il avait recueilli donc en occitan de Gascogne, le Gascon de la Lomagne. Il les a d'abord publiés en français, et c'est dans les années 70, par là, que l'Institut d'études occitanes de Toulouse les a republiés, mais retraduits en occitan gascon, ou en occitan, disons, s'entend le gascon. C'est passionnant, parce que... Que voulez-vous, on voit ressurgir des textes, des récits que l'on connaît dans la mythologie grecque, tels que le mythe d'Édipe, par exemple, ou d'autres. Il faudrait relire de Jean-François Bladier pour que tout me revienne en tête.
Passionnant.
Et... Il y a plus que lui, hein, il y a plus que lui. Vous avez Antonin Perbosque, vous avez René Descazeaux de nos jours, Isaure Gratacos, Olivier de Marliave, Baran Diaran, David Gros-Claude avec ses Contes de Ushmuns. Et d'erras à riveras, pour dire à la Gasconne, les contes des monts et des vallées des Pyrénées, et ainsi de suite.
De giul pundeli, un laderi, Margarido se bagno.
De giul pundeli, un laderi, Margarido se bagno.
E lo se bagno, paladeri, ne lavora più gado.
E lo se bagno, paladeri, ne lavora più gado.
E lo se bagno, paladeri, ne lavora più gado.
E lo se bagno, paladeri, ne lavora più gado.
Passan tre cavalli e laderi, tre scavalli e d'armado.
Passan tre scavalli. Laderi, tres cavaliers d'armado.
Pues son tres cavaliers laderi, tres cavaliers d'armado.
Pues son tres cavaliers laderi, tres cavaliers d'armado.
So fellude de baladeri que lo velo la guairo.
So fellude de baladeri que lo velo la guairo.
Alors vous allez proposer quoi dans votre émission ?
Eh bien écoutez, il y a de ça quelques années, la Société de mythologie française avait contacté ses membres pour publier un recueil. Chaque membre pour sa région avait droit à 30 pages maximum. Ça a été publié sous le titre « Guide de la France mythologique » chez Payot, petite bibliothèque Payot. Et tous les membres volontaires ont pu publier quelque chose. Sur le Quercy, nous étions deux. Il y avait Jean-Louis, je ne dis pas de bêtises, Rougier, je crois bien, oui, Rougier, qui habite dans le Haut-Quercy, du côté de, dans le nord-est du Lot, qui a publié un texte passionnant de 30 pages sur sa vision mythologique et féerique de la géographie historique du Quercy. Il faut le relire parce que moi, je l'avais rencontré une fois à Cahors et il m'avait révélé le sens profond de certaines choses que j'avais découvertes sur mon CUC. Il publie du reste sur Facebook, dans la page animée par Marc Lagali, des choses à ce sujet. Et puis bon, on m'en avait parlé, j'ai proposé ma collaboration, on a bien voulu de moi, et j'ai pu pondre un texte, vous voyez, j'emploie le mot, c'est toujours comme ça que je dis. Un texte de 30 pages, et on était vraiment très limité, 30 pages, on ne pouvait pas les dépasser, sur le Quercy, que j'avais intitulé « Le Quercy, terre sacrée ». Et parce que je m'étais aperçu, dans mes recherches, notamment dans l'histoire générale du Languedoc, des révérends pères de Vic et Vécette, il y a 16 tomes de 1000 pages chacun, aux éditions Privas, un texte du XVIIIe siècle, enrichi par Alexandre de Mège, je m'étais aperçu qu'un testament d'un comte de Toulouse, il est connu, Raymond Ier, comte de Rouergue, Toulouse et Quercy, ce testament de 961, par lequel il fait donation à différents établissements ecclésiastiques, abbayes et monastères, ou à cathédrales et églises du Quercy, ce testament nous décrit un Quercy, Lot plus Tarn-et-Garonne actuel, le Tarn-et-Garonne au nord du Tescou, c'est connu, de Cressensac à Montauban, jusqu'au Tescou. Il nous décrit le Quercy par les donations qu'il fait en faveur des différents établissements ecclésiastiques, en suivant une espèce de spirale, comme une coquille d'escargot, à involution vers un centre qui est Cahors. Alors il part de la région de Moissac, si vous voulez, il remonte vers l'ouest, le nord, etc., etc., toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, semble-t-il, et il termine sa donation à Cahors. Et vous avez une description ainsi du Quercy qui m'avait paru curieuse, parce que ça suivait, ça avait pour centre, pour différentes étapes, des sites sur les confins du Quercy, sur lesquels il y a des légendes de fondation, qui sont intéressantes, on les retrouve ailleurs. Vous avez la légende de fondation, par exemple, de Moissac, qui a pour équivalent, au Maroc, la légende de fondation de Fès, la ville de Fès, Al-Fassi, le coup de hache. C'est la même chose à Moissac. Alors vous avez ainsi différentes villes, Moissac, Duravel, Souillac, la région de Saint-Céré, avec notamment Comiac, Figeac, on termine, on revient vers Cahors, et Cahors, évidemment, est l'épicentre. Et vous avez là toute une série de mythes et de légendes, il y a Marciac sur le Célé, Rocamadour et autres, qui véritablement structurent une vision de ce que je pourrais appeler la géographie sacrée du Quercy. Et ça m'a donc servi de plan pour rédiger mon texte, et c'est là que l'idée m'est venue que dans la vision de nos ancêtres, le Quercy était une terre sacrée. Donc qui dit terre sacrée dit une terre taboue, une terre interdite. Une terre qui était à part dans l'histoire du Midi, du Grand Midi, gallo-romain méridional, devenu occitan. Puis j'ai après continué de faire des publications dans la société, dans le bulletin de la société. Jean-Luc Oberreiner m'avait contacté pour Quercy Recherche. J'avais fait un article sur les cueillettes de plantes sauvages, centré sur les respunsus, l'ouïe respunsus, les jeunes pousses de tamiers communs. Et donc, à partir de là, sur l'histoire de toutes sortes alimentaires, l'histoire de l'alimentation et plus que ça.
Donc, c'est un peu ça que vous allez proposer dans votre émission.
Je vais essayer. Alors là, puisque je suis sur mon cul, je vais essayer. Bon, je veux pas marcher sur les brisés et aller sur les terres d'autres spécialistes de leur propre région personnelle. Je n'ai pas de prétention de ce côté-là. Je pourrais certes parler un peu de ce que je sais de l'histoire générale du Quercy. Il y a des spécialistes bien plus compétents que moi en la matière, mais je vais parler de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a transmis, de ce que l'on m'a raconté, ce que l'on m'a dit. Donc finalement, des mythes, au sens exact du terme, que des gens du pays, de vieilles gens du pays de Montcuq, m'ont transmis parce qu'ils connaissaient mes parents, parce que j'avais affaire à eux à différentes occasions, notamment, je pense à certains guérisseurs, il faudrait dire plus que guérisseurs, je ne veux pas en dire plus, qui m'ont appris sur le vieux Quercy inconnu, je dirais presque underground, le vieux Quercy qui n'est pas celui des touristes, le vieux Quercy dans sa tripe, dans ses viscères profondes. Le vieux Quercy qui, par exemple, est illustré par des paysans que je connais sur le pays de Montcuq, comme André Carrière de Cairel, comme André Séval de Lacombe en face de chez moi et tant d'autres, qui m'ont raconté des choses. Et alors là, je tiens des récits de Berthe Laporte, dite la Despratourne, qui m'a raconté des choses sur Saint-Jean-le-Froid, d'Antoinette Gratignol, décédée depuis longtemps, la légende du Touron, de Françoise Burzio, qui a mon âge, le peu que l'on sait sur la grotte du Diable à Couvignac, d'autres personnes, les sources donneuses de pluie, car le Quercy blanc, le Quercy en général, mais le Quercy blanc en particulier, est remarquable parce que le fait qu'il est structuré, on pourrait dire, dans sa carte géographique et géologique, par des résurgences de sources qui sont des sources qui donnent la pluie, qui font venir la pluie. Un de mes auditeurs habituels de mes promenades de conférences bénévoles des étés précédents, qui est d'origine bretonne et qui est breton-bretonnant, M. Barrache, me disait « Si en Bretagne, on va en pèlerinage à des sources pour obtenir ou auprès de chapelles de saints pour obtenir le beau temps, en Quercy, c'est le contraire, c'est pour obtenir la pluie. » Et nous avons ainsi des choses, la source de Saint-Julien à Rouillac, de Saint-Martial et autres. Et puis il y a plus que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Nos églises, par leur sculpture, je pense à Saint-Hilaire de Montcuq, à Saint-Aignan de Rouzé, à Saint-Pierre-Eslien de Saint-Donès, sont des conservatoires par les sculptures, des conservatoires par des récits figés dans la pierre, de mythes complètement oubliés de nos jours. Le Quercy, surtout le Quercy blanc, est un pays qui est remarquable par ses dictons en matière de météorologie. Alors, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Quand la lune torno al bel, tres sours après, porto capelle. Quand la lune revient avec le beau temps, trois jours après, elle a un halo, annonciateur de pluie, par exemple. Mais vous avez mieux. Vous avez un dicton que je vous dirai en français et après en occitan. Vous savez que lorsque il pleut, abondamment, averse, et si le soleil vient à percer à travers les nuages et que sa lumière traverse les rideaux de pluie qui tombent sur la terre, on dit que le diable bat sa femme. Le diable, c'est donc le soleil, c'est le ciel, et sa femme, c'est la terre. En fait, en occitan, il faudrait dire « lo diable non pa battesto », la seua fenno, la seua espuso. Il faudrait dire que « lo diable battezzo », la seua fenno. Le diable ne bat pas sa femme, « battesta », il baptise, « battezza ». C'est-à-dire que le diable, à travers par la pluie, féconde la terre. Et le diable, donc, c'est le ciel, c'est le soleil, c'est le vieux dieu, plus vieux que encore que les, tous les dieux gaulois réunis, de la nature. C'est un dieu céleste, un dieu de l'orage, et qui est le maître de la nature féconde, et dans toute sa fécondité, dans toute son abondance. Alors, ce proverbe, bon, je l'ai entendu, j'avais 7 ou 8 ans, nous étions à la hauteur de ce qui est la poste actuellement à Montcuq, il pleuvait, le soleil descendait vers l'ouest, à ce moment-là, il perce les nuages et il éclaire la nature. Et un de mes copains de Montcuq m'a dit « Le diable bat sa femme ». Et depuis, j'ai appris ce que ça voulait dire. En fait, c'est un reliquat des plus vieilles religions du plus vieux Quercy. Vous avez la même chose, et c'est le chanoine Sol qui l'a recueilli à Sérignac. Lorsqu'il a un soir de pleine lune, le plus fin croissant apparaissant dans le ciel, vu des enfants prendre des cailloux qu'ils cognaient entre eux dans leurs mains et chanter, je vais vous le dire, « Luno luno, papo luno, nostre segne te saludo, ban ban, balipan, ban ban, talipan. Lune lune, pape lune, notre Seigneur, le Christ, te salue, ban ban, balipan. » Au fond, on avait là un reliquat, une résurgence des plus vieux cultes de la... du Quercy le plus ancien. Et c'est beaucoup plus vieux que la Gaule, et beaucoup plus vieux que Rome.
Bon, on va apprendre plein de choses avec vous, j'en suis sûre. Alors, pour la prochaine émission, la première, qu'est-ce que vous nous présenterez ?
Alors, bon, d'abord, j'avais pensé à parler du Touron. Mais alors, le Touron est un récit, un mythe, qui demande d'avoir une carte hygiène sur les yeux pour bien se situer dans le paysage. Puis c'est un mythe terrifiant, c'est redoutable. Le Touron... Les gens qui ont assisté à mes promenades de conférences sur le sujet, il y a de ça quelques années, en sont encore tellement impressionnés qu'ils m'ont dit « François, on n'ose plus y passer tout seul ». Je dois vous avouer que moi-même, lorsque je vais ramasser mes plantes médicinales, parce que c'est un coin à Primevert et à Origan, et j'aime bien aller y ramasser, mais c'est sur les côtés, sur les terres d'à côté. C'est à au Roc des Faïdes que je trouve l'Origan et les Primevert à Cantegore. Mais s'il me faut pour aller d'un à l'autre passer par des raidillons, des raccourcis et par le Touron, je ne suis pas sans avoir une certaine angoisse, une certaine crainte. Alors peut-être plutôt vous parler de Saint-Jean-le-Froid, parce que c'est beaucoup plus rassurant.
Eh bien écoutez, merci François, on va vous retrouver donc samedi pour cette première émission. À bientôt.
À bientôt.
Passen tres cavaliers laderi, tres cavaliers d'armado.
Su felu de la balla de ricolo,
me lo lavai.